Nous sommes ici à Delphes jusqu'à 11h30 et on va commencer par le site archéologique comme il ne pleut pas.
Voilà, je vous propose aussi que nous commencions par un tout petit temps de prière. C'est vendredi, c'est vrai que dans la tradition catholique, on le fait moins, ce n'est pas une tradition orthodoxe. Le vendredi, évidemment, dès du temps de carême, on fait le chemin de croix. Je voudrais juste vous lire un passage de la première lettre aux Corinthiens. Voilà ce qu'écrit Paul. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. La croix est en effet un objet de scandale, donc quand on dit scandale, d'objet de chute. Elle fait chuter, notamment ceux qui ne peuvent admettre le fait qu'un Dieu puisse s'être révélé dans la faiblesse la plus extrême de la croix. Évidemment, on est aux antipodes du panthéon grec. Là, il s'agit de puissance, il s'agit de force. Avec le christianisme, il s'agit d'un Dieu qui renverse tous les codes et tous les critères. Un Dieu dont la toute-puissance se révèle dans la faiblesse la plus extrême, celle de la croix. Et c'est bien ce que Paul essaye de prêcher ici, dans ce monde grec en quête de sagesse, en même temps qu'il dénonce aussi les quêtes de ses propres frères de religion qui, eux, sont à la recherche de signes de puissance. Les Juifs recherchent des signes, mais ces signes, ce sont des signes de puissance. Et dans ce contexte-là, Paul indique comment la croix renverse la sagesse des hommes dans ce qu'elle pense habituellement de Dieu ou des divinités. On pense aux divinités, voilà, du monde grec, en même temps qu'elle renverse aussi, voilà, les prétentions de ceux qui voudraient s'approprier Dieu, qui voudraient, voilà, se faire un Dieu à l'image de leur puissance ou de leur soif de puissance. Si vous le voulez bien, nous allons ce matin penser à toutes les personnes, tous les chrétiens persécutés, tous les chrétiens qui vivent aujourd'hui les persécutions pour qui la croix est une réalité présente. Nous allons penser aussi à toutes les personnes qui, sans nécessairement connaître le Christ, sont abîmées dans leur dignité, défigurées, comme Jésus l'a été sur la croix. Nous allons aussi penser à toutes les personnes malades, souffrantes, en fin de vie, parfois dans des conditions de grande souffrance et de grand désespoir. Que le Seigneur les prenne avec lui. Lui qui, sur la croix, s'est saisi de tous les cris de l'humanité, de tout ce qui crie « Pourquoi ?» Que le Seigneur les comble de son amour, de sa force et de son espérance.
Calimera encore une fois. Ici, pour le moment, on va traverser encore une fois le village actuel de Delphes. Il y a beaucoup de touristes à Delphes pendant toute l'année. La saison touristique, c'est assez longue pour les touristes, mais en hiver aussi, ils travaillent bien avec les Grecs qui viennent ici pour faire du ski sur le Parnasse. Je vais commencer par le site archéologique. Delphes était un grand sanctuaire, très riche, pendant beaucoup de siècles, pendant la période romaine aussi. Parce que les Romains, comme on a dit, ils croyaient aux 12 dieux et ils gardaient, ils utilisaient tous ces grands sanctuaires de la période grecque ancienne. Ils ont ajouté aussi quelques constructions, quelquefois. Nous avons beaucoup d'empereurs romains qui ont visité les sanctuaires. Et ça a été ouvert jusqu'au début de la période byzantine, 392-93. C'est la période où l'empereur byzantin Théodose il a décidé qu'il ne croyait plus aux 12 dieux. Nous avons les premiers chrétiens. Pour le site de Delphes, ça a été couvert par la terre et à la fin du 19e siècle, quand les habitants locaux ont commencé à fouiller pour un nouveau village, ils ont trouvé les ruines de l'Antiquité. Il y avait des archéologues français à cette époque-là qu'ils ont commencé les fouilles, qu'ils travaillaient pendant une grande période. Maintenant, nous avons des archéologues grecs qui sont responsables. Mais comme les Français, ils ont travaillé beaucoup, il y a une collaboration. Et comme on va voir demain, dans le site et dans le musée, toutes les explications sont en grec, en anglais et en français. En l'honneur des archéologues français qu'ils ont travaillé ici. Ils ont trouvé alors le sanctuaire avec le grand temple d'Apollon, les trésors, il y a aussi le théâtre, il y avait le gymnase, il y a beaucoup de bâtiments, ils n'ont pas trouvé l'hippodrome, il y a une supposition qu'il y avait aussi un hippodrome, parce que si vous avez déjà vu quelques photos de Delphes, je crois que vous avez vu les photos plus caractéristiques sont où les colonnes par le temple d'Apollon qu'ils ont restauré, ou trois colonnes de Tholos, un autre bâtiment particulier, circulaire, ou peut-être la statue de Orise, qui sont les plus caractéristiques. Omphalos, en grec, signifie nobril. C'est là alors où nous avons les grands sanctuaires, un centre religieux très connu, où arrivent tous les Grecs quand ils veulent apprendre l'avenir, quand ils veulent prendre l'opinion de Apollon pour quelques problèmes personnels ou aussi pour faire des questions de type si c'est le temps pour commencer la guerre, la ville d'Athènes par exemple, si ils peuvent avoir une victoire à la prochaine bataille. Et s'ils sont satisfaits, ils reviennent plus tard pour offrir encore plus de choses, pour remercier les dieux. Nous avons alors le sanctuaire où il prend l'oracle. Et qui va dire les oracles? C'est une femme, c'est Pitty. Une femme, au début elle était une vierge, après ils ont changé ça, elle était une vieille dame, 50 ans. Oui. Et pendant la période et la grande réputation du sanctuaire, il y avait trois femmes qui travaillaient comme Pitty. Pitty commençait par la fontaine de Castalli. Elle montait après, pour se laver elle-même, et après elle montait dans le temple d'Apollon, le bâtiment principal dans le sanctuaire. Là, elle mastiquait les feuilles de laurier, elle était à une extase et elle parlait, elle disait des choses qui étaient difficiles de comprendre. Sont les personnes qui travaillent là qui peuvent traduire le mot, les paroles de Pitty. Et ils donnent l'oracle, la réponse à la question qui font les citoyens. Nous avons le peuple, nous avons de personnes qui arrivent jusque-là, qui viennent de toutes les grandes villes de l'Antiquité et de colonies aussi. Dans le site de Delphes, il y a le trésor de Marseille. Les Grecs de Marseille, ils sont venus jusqu'ici pour prendre l'oracle, pour demander à Apollon. Et chaque fois que chacun de Marseille viendra, il y avait un bâtiment, un trésor, comme on dit, dans lequel ils mettaient leurs offrandes. Chaque ville, chaque cité de cette époque-là, Athènes, Corinthe, Thèbes, Sparte, elle avait un trésor. Les personnes qui arrivent alors cette époque-là à Delphes, ce n'est pas très facile, ils faisaient un grand voyage, ils arrivent au début dehors le sanctuaire, dans un endroit où il y avait aussi un temple consacré à Athéna. On l'appelle Athéna Pronea. Pro signifie avant. Naos, c'est le temple. Pronea signifie avant le temple principal d'Apollon. C'est là où il reste les visiteurs pendant 2-3 jours pour se reposer, pour discuter un petit peu avec les prêtres du sanctuaire. Et après, quand ils sont prêts, ils peuvent entrer dans le sanctuaire. Il faut offrir quelque chose. Et comme d'habitude, ils mettent leurs offrandes dans le trésor de leur ville. Après, ils montent jusqu'au temple où il faut sacrifier une chèvre, comme d'habitude. Et après ça, ils ont le droit d'entrer dans le temple où il attend la parole de pitié. Mais il ne comprend rien. Ce sont les prêtres qu'ils vont expliquer. Nous sommes alors dans le site archéologique, mais nous ne sommes pas entrés encore dans le sanctuaire de Delphes. Regardez un petit peu le paysage tout autour. Nous sommes entre les montagnes. Nous sommes sur les parois de Parnasse. Nous ne pouvons pas voir le sommet du Parnasse. Juste derrière le site archéologique, nous avons les deux grandes roches qu'on les appelle Phédriades. Les Phédriades, vous pouvez voir la pierre, c'est du calcaire avec une couleur grise, mais quand on va le couper, c'est un peu aussi jaune. C'est la même pierre qu'on trouve dans la vallée de Tembi, près de l'Olympe. On a dit qu'Apollon, quand il a assassiné Python ici, il est allé à Tembi. Et là, nous avons la même pierre. De l'autre côté, derrière les premières montagnes, c'est la mer. C'est le golfe de Corinthe. Nous ne pouvons pas voir la mer, mais l'air de la mer arrive jusqu'ici. Entre les montagnes, alors, ici, sur une altitude de 600 mètres à peu près, les Grecs, pendant l'Antiquité, ils avaient une sanctuaire consacrée à Gaïa, la terre-mère, et après, ils ont changé la culte et été consacrés à Apollon. C'est connu comme le temple, le sanctuaire de Apollon. Nous sommes dehors le site, dehors le sanctuaire, et nous sommes dans le forum romain. Vous voyez de ce côté une portique. On peut comprendre que c'est de la période romaine parce que nous avons les briques, n'est-ce pas? Ça est une portique. Ici où nous sommes maintenant était une place ouverte. Nous avons un petit forum, pas trop grand à cause de la morphologie de la terre. Nous sommes sur les parois de la montagne. Les chrétiens, avant d'abandonner ces sanctuaires, ils ont utilisé, on peut comprendre, une de ces petits bâtiments devant nous, comme une petite chapelle. Dans la dernière niche, là au fond à droite, il y a un chapiteau et là il y a une croix. Hein, c'est caractéristique du christianisme. Ça, ce n'est pas de la période grecque ancienne. Ça reste par les chrétiens qu'ils ont utilisé pour une petite période quelques bâtiments ici. Et comme les Grecs pendant l'Antiquité, nous aussi, on va continuer sur la voie sacrée pour monter jusqu'à là où vous voyez les grandes colonnes. Là, c'est le temple d'Apollon. Et après, c'est le théâtre. Ici, au début alors, près de la voie sacrée, à droite et à gauche, il y avait des statues, des offrandes à Apollon. Il y avait des statues en bronze,
des statues en marbre et des statues en or. Et vous voyez aussi qu'il y a toujours, partout sur les murs, des inscriptions en grec. Il y a des lettres qui sont gravées. C'est pas facile, hein, sur la pierre. Et maintenant, les archéologues, ils ont travaillé beaucoup pour lire, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'espace entre les mots, c'est l'un près de l'autre, pour trouver exactement les lettres, pour les déchiffrer, pour expliquer. Ils disent que nous avons ou des catalogues des ex-voto, aux dieux, ou nous avons quelques hymnes consacrés à Apollon. Et nous avons, il était aussi le dieu de musique. Et il organisait ici les jeux pythiques. Tous les 8 ans, parce que Apollon restait pendant 8 ans dans la vallée des Tembi, chaque 8 ans, il organisait les jeux pythiques, comme les jeux olympiques à l'Olympie, comme les jeux de Panathénée à Athènes. Ici étaient les jeux pythiques. On va voir après. Avant de continuer, vous pouvez voir ici un des symboles d'Apollon, la lyre. On peut comprendre que les Grecs, à cette époque-là, avaient la technologie, si vous voulez. Et ils savaient, ils utilisaient beaucoup les mathématiques aussi pour les constructions. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'esclaves aussi. Et pour les pierres, c'est pour ça que je dis, il est coupé là-haut, il les utilise pour les constructions ici. Il transporte seulement le marbre d'une distance très longue d'Athènes, 1180 km, c'est beaucoup cette époque-là. À gauche, vous pouvez voir une pierre. Est-ce qu'il y a une idée? Qu'est-ce que c'est ça? Avec cette pierre, présenter le nobril du monde. Ça n'était pas ici. Les archéologues, ils l'ont trouvé dans cette région, mais ils croient qu'il était tombé par le temple. Le prochain bâtiment, les seuls qu'ils ont reconstitués, c'est le trésor des Athéniennes. Et comme ça, on peut savoir, on peut comprendre encore mieux comment était un trésor. Vous voyez qu'il y a 2 colonnes de style dorique ici devant nous, un vestibule juste derrière et après une chambre plus grande. Il manque le toit, mais c'est sûr qu'il était couvert. Les Athéniennes ont payé 2 fois pour ces bâtiments. La première fois était pendant le 5e siècle avant Jésus-Christ et la deuxième fois était en 1904 pour la restauration de ces bâtiments. Oui. Et vous voyez que la restauration, c'est clair. Où sont les morceaux plus clairs? Ils les ont ajoutés plus tard. Les plus obscurs sont d'origine. Ils ont utilisé le marbre pendélique de Athènes. Dehors la ville d'Athènes, c'est le mont Pendéli. Et c'est par là où ils prenaient le marbre pour faire les grands monuments dans la ville d'Athènes, mais aussi pour leurs monuments dehors Athènes. Vous comprenez qu'il n'était pas très facile de transporter tous ces morceaux de marbre, 180 km jusqu'ici, sur les chars. C'est ça que je disais avant, qu'il ne faut pas oublier les esclaves qu'ils ont travaillé. On dit les Athéniennes, mais ils n'étaient pas les Athéniennes exactement qu'ils ont transporté tout ça jusqu'ici pour faire le trésor. En haut, nous avons les triglyphes et les métopes. Ça que vous voyez là-haut, les métopes sont des copies. Et sur le mur qui est au sud, le mur qu'on a vu en montant, il y a beaucoup d'inscriptions. Et là, ils ont trouvé quelques inscriptions qu'ils croient qu'ils sont des notes musicaux. Vous voyez derrière vous que nous avons un mur. C'est d'origine, un mur polygonal, comme vous voyez. Ils l'ont trouvé comme ça, pour soutenir la terre, pour créer une terrasse là-haut, sur laquelle ils ont construit les grands temples d'Apollon. Juste avant le mur, devant vous, était le portique des Athéniennes, un autre bâtiment qu'ils ont offert à Apollon. Qu'est-ce que c'est le portique? C'est un couloir, c'est fermé derrière, il y a 2 colonnes devant, le toit, et est un bâtiment très pratique à cette époque-là, pour être protégé s'il pleuvait, s'il y avait de neige, très souvent, ou pour rester à l'ombre en été, avec le soleil quand il fait chaud. Entre le portique des Athéniennes et le trésor des Athéniennes, là à gauche où est l'olivier, était la sphinx qu'on va voir plus tard dans le musée de Delphes. Juste pour avoir une idée où ils l'ont trouvé. C'est le statue plus impressionnant de ces sites. Et devant nous, une autre colonne en marbre. Ça, c'est le style ionique, avec les volutes. Ionie, c'est la région centrale de l'Asie mineure. C'est là où se trouve Éphèse, Izmir. C'est là où ils ont commencé à faire ce type de colonnes, qui sont plus fines et plus élégantes. Quelquefois, ils me demandent comment on peut savoir tout ça que tu dis. La première chose sont les sources écrites que nous avons par les historiens. Nous avons Pausanias, 2e siècle après Jésus-Christ. Il a voyagé, il a vu, il a visité tous ces grands sanctuaires. Il a écrit et ça reste encore. Nous avons des informations qui nous aident beaucoup. La deuxième chose sont les fouilles. Les archéologues, pendant les fouilles, ils trouvent beaucoup de choses qui donnent d'informations. Et après, nous avons aussi l'imagination des archéologues. Le travail des archéologues, ce n'est pas facile. Vous pouvez imaginer que toute cette... Cet endroit était couvert par la terre et les pierres de Parnasse pendant beaucoup de siècles. Quand ils sont arrivés au niveau du sanctuaire. On peut voir encore mieux ce qui reste du temple d'Apollon. L'entrée à l'est, on a dit. Dedans, il y avait une salle assez longue, ça qu'on l'appelle Sikos, Cella en latin. Et après, à droite, à l'ouest, il y avait une chambre qu'on l'appelle Aviton ou Avaton, là où nous ne pouvons pas entrer. On utilise le même mot pour le mont Athos. On dit qu'il y a le Avaton pour les femmes sur la péninsule de Mont Athos. Alors ici, Avaton, c'est une chambre privée seulement pour Piti. Piti allait à la fontaine Castalie, entre les deux Phédriades, c'est l'eau qui descend encore. Alors, il arrivait là pour se laver elle-même. Et après, elle montait sur la voie sacrée jusqu'ici. Elle était dans le Aditon, sur un trépied, comme on peut savoir par les historiens. Il mastiquait les feuilles de laurier. Il y avait aussi des fumerolles là, dans cette chambre. Et elle disait les oracles. Les archéologues avec les géologues, ils ont cherché s'il y a une raison pour avoir de fumerolles. Peut-être quelque chose qui ça vient de la terre. Rien. Il était de fumerolles artificielles, juste pour l'ambiance. Les personnes alors qui arrivaient ici, après le sacrifice sur l'autel, ils entraient et ils restaient dans la salle principale, dans le Sikos. Il y a la tradition, ils disent que le premier temple d'Apollon ici était, ils l'ont fait en feuilles de laurier. Impossible. Le deuxième était en bronze. Peut-être il était couvert avec les plaques de bronze. Le troisième, une construction du 6e siècle, enfin, il était en pierre. Mais ça que vous voyez, ça qui reste, c'est de la période du 4e avant Jésus-Christ. Il y a deux différentes périodes, deux différentes phases. Ils ont construit le premier, le 6e siècle, et ils l'ont refait pendant le 4e. C'est une personne qui travaille dans le site. C'est la première fois qu'il y a deux périodes qu'ils continuent les recherches. Hein? On a dit que les archéologues, il faut aussi préserver tout ça qu'ils trouvent, conserver tout ça qu'ils trouvent. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait.
Parce qu'elle a une plaque avec elle.
Donc on fait partie de l'école française qui a fouillé ici à la fin du 19e siècle. Et on est en train de mettre à jour une carte complète du site qui couvrira aussi la région autour et qui a été faite dans les années 70. Donc il y a des blocs qui ont bougé, donc on vérifie monument par monument, puis on prendra des mesures ensuite avec un topographe pour faire une carte numérique qui sera disponible dans quelques années normalement.
Voilà. Cool.
Et moi je suis français, on travaille avec l'école à Athènes.
Vous êtes français d'où ?
De Paris.
Merci.
Je vous en prie.
Ça a été démoli spontanément, tout seul, à cause d'un tremblement de terre.
À la fin du 4e après Jésus-Christ, ils l'ont fermé, ils l'ont abandonné. Pendant tous ces siècles, on a dit que quelquefois, il provoque de dégâts, les chrétiens. Et ils ont oublié tout ça, après tous ces siècles, le tremblement de terre, la guerre, je ne sais pas, la nature. Nous avons, dans cette région, nous avons beaucoup de tremblements de terre, près du golfe de Corinthe et à l'ouest de la Grèce, dans la mer Ionienne. Nous sommes arrivés jusqu'ici pour voir le théâtre. À Delphes, il n'y a pas quelques villes, quelques cités. Il y a juste un établissement où habitent les personnes qui travaillent dans le sanctuaire. Mais le théâtre, c'est pour les visiteurs. Il y a des périodes, des épithiques, par exemple, où il arrive beaucoup de Grecs et ils peuvent présenter quelques actes théâtrales. Le stade s'est fermé au public, nous ne pouvons pas entrer. Les dégradés que vous voyez, ils les ont mis en ordre, les archéologues. C'est un peu fragile et c'est pour ça que c'est fermé au public. Mais on peut comprendre qu'ils ont utilisé aussi les Romains comme arène parce qu'il y a un petit mur tout autour de l'orchestre, vous voyez, pour protéger les spectateurs. Il y a aussi le canal tout autour pour ramasser l'eau de la pluie et pour les spectateurs, il y avait une très belle vue, comme vous voyez, de l'autre côté. Ils ont commencé à organiser les Jeux Olympiques 677, la première date que nous avons pour les Jeux Olympiques. Au début, la durée était juste 3-4 jours et il est arrivé jusqu'à 7 jours. C'était une période de la paix. Il s'arrêtait la guerre et les athlètes de toutes les grandes villes il est arrivé jusque-là pour participer aux Jeux Olympiques. Et les vainqueurs des Jeux Olympiques prenaient juste une couronne qui faisait avec les branches d'olivier, kotinos comme ils l'appellent. Et pour les vainqueurs d'Athènes, quand ils rentraient à Athènes, ils détruisaient un morceau de la muraille pour passer les vainqueurs. Pour Sparte, les vainqueurs avaient le droit de participer à la guerre près du roi. Un grand honneur.
Ce site ici, quand est-ce qu'il est abandonné ?
Quatrième, à la fin du 4e, après Jésus-Christ.
Après, oui, c'est ça que je veux savoir.
Après, donc, 300,
ça, donc,
on a dit,
veut dire que
Théodose.
À l'époque de Paul, quand Paul passe par ici, on continue à vénérer les divinités.
Oui, pendant la période romaine, oui.
Voilà. Tout ça pour... Je vais en parler pour que vous compreniez l'aberration que représente le Christ. C'est une aberration, le Christ, dans le monde grec. Voilà, j'ai posé la question à Léna de savoir quand est-ce que ce site allait être abandonné. Elle m'a dit 4e siècle, après Jésus-Christ. Donc, vous voyez l'aberration que représente l'annonce de Paul. Ici, on voit le faste, on voit les divinités, on voit tout ce que l'on fait pour elles, on voit... Et Paul qui va lui arriver en prêchant un crucifié. C'est une aberration. C'est là qu'on comprend, je pense que c'est l'une d'entre vous qui m'a posé la question ce matin, c'est là qu'on comprend le fait que Paul puisse dire que la croix renverse la sagesse des hommes. C'est une aberration que de penser à un Dieu crucifié. À plus forte raison dans le monde grec, qui est le monde de la sagesse, qui est le monde des divinités. Paul, lui, arrive en disant, voilà, non, moi, celui que je vous annonce, c'est un crucifié. C'est un Dieu crucifié. Quand vous voyez, voilà, ce site, toutes les célébrations, tout le faste, ainsi que bien sûr d'autres sites, on voit bien comment la prédication chrétienne, à ce moment-là, est quelque chose de complètement fou. C'est fou. Voilà. Mais vous comprenez, on en reparlera.
Ça mettait au chômage beaucoup de monde aussi.
Alors ça mettait au chômage beaucoup de... Mais ça mettait surtout, ça renversait surtout totalement l'image que l'on se fait de Dieu. Totalement l'image que l'on se fait des divinités. C'est quelque chose... Et c'est aberrant. C'est aberrant pour la sagesse des hommes. Dieu, les divinités ne peuvent être que toutes puissantes. Vainqueurs, ou voilà, elles ne peuvent être que glorieuses, ainsi de suite. Et voilà que lui dit, non, moi je vous annonce un crucifié.